Bonsoir. Les nouveaux députés nationaux élus aux élections du 20 décembre 2023 ont été convoqués ce lundi 29 janvier 2024 au Palais du Peuple à Kinshasa. La plénière inaugurale a été présidée par le secrétaire général de l'Assemblée nationale, conformément à l'article 114 de la Constitution. Cette plénière a procédé à la mise en place du bureau d'âge qui sera présidé par Christophe Mbosso, le doyen d'âge, Serge Bahati et Agé Matembo, les deux moins âgés, désormais président, rapporteur et questeur du bureau provisoire de l'Assemblée nationale. Ce bureau provisoire aura pour mission de valider les pouvoirs des députés, élaborer et voter le règlement intérieur de la Chambre et d'installer le bureau définitif de l'Assemblée nationale. Parmi les 477 députés nationaux élus provisoirement, 337 membres sont des nouveaux élus, soit un taux de renouvellement de 71%, et 140 membres sont réélus, représentant 29% du total. En ce qui concerne la représentation des femmes, 61 membres sont du genre féminin, équivalent à un taux de 13%, tandis que 416 membres sont du genre masculin, représentant 87%. Quelle lecture faites-vous de cette nouvelle législature? Quels sont les défis qu'elle est appelée à relever? C'est le thème de Dialogue entre Congolais de ce lundi 29 janvier 2024. Participe au débat Fassi Zapamba, député national élu de Povo Kabaka dans la province du Kwango. Pour la quatrième fois consécutive, il est vice-président du conseil d'administration du réseau des parlementaires africains contre la corruption, chapitre RDC, également membre de l'Union sacrée de la nation. Fassi Zapamba, bonsoir.
Bonsoir, madame le journaliste, et bonsoir à tous les auditeurs de la radio.
Trésor Tshikambi Muyeye, député national, élu de Dilolo dans la province du Lualaba. Il est ancien directeur de cabinet du gouverneur du Lualaba et ancien ministre du budget de la même province. Trésor Tshikambi Muyeye, bonsoir. Muyeye, voilà, bonsoir.
Bonsoir, madame la journaliste, et bonsoir à tous nos auditeurs.
Et le professeur Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique et politologue. Professeur Bob Kabamba, bonsoir. Professeur Bob Kabamba, bonsoir. Vous m'entendez? Il est en ligne, mais je crois qu'on a un petit souci avec son téléphone. On va essayer de le rappeler à Kinshasa. Vous nous suivez sur la 103.5. Et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net, sur Canal Plus, Canal 572, sur DSTV, Canal 867. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission en live sur la page Facebook et la chaîne YouTube de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Je l'ai dit dans mon introduction, Christophe Mbosso, le doyen d'âge, Serge Bahati et Agé Matembo, les deux moins âgés, sont désormais présidents, rapporteurs et questeurs du bureau provisoire de l'Assemblée nationale. Ils ont été installés ce lundi, conformément à l'article 114 de la Constitution, au cours de la plénière inaugurale présidée par le secrétaire général de l'Assemblée nationale. Ce bureau provisoire aura pour mission de valider les pouvoirs des députés, élaborer et voter le règlement intérieur de la Chambre et d'installer le bureau définitif de l'Assemblée nationale. Dans quelle ambiance s'est déroulée cette première plénière? Michel Kifinda pour le reportage.
C'est dans l'enceinte d'un palais du peuple archicomble que s'est déroulée la plénière inaugurale de la 4e législature de la 3e République de l'Assemblée nationale. La salle de congrès ayant été pleine à craquer, des militants et sympathisants ont envahi tant le hall que la cour du palais du peuple. Après l'appel nominal, le secrétaire général de l'Assemblée nationale a invité les nouveaux élus à travailler efficacement pour rencontrer les attentes de la population congolaise et honorer leurs promesses. promesses électorales. Jean Gouvoulou a rappelé le rôle de la représentation nationale d'un député dans l'élaboration des lois répondant aux aspirations de la population et le contrôle de la gestion publique pour le bien-être des Congolais. Il a par la suite procédé à l'installation du bureau provisoire composé de Christophe Mbosso, le plus âgé, de Serge Bahati, fils du président du Sénat, et Agé Matembo, fils du questeur de la CENI, les deux moins âgés. Après la prise de pouvoir, le rappel de la mission du bureau d'âge, le président Christophe Mbosso a suspendu la séance plénière sans mettre en place la commission spéciale devant étudier les dossiers des députés pour validation de leur pouvoir.
Merci Michel Kifinda pour ce reportage. Passi Zapamba, je l'ai dit, vous êtes député national élu de Pobo Kabaka, province du Kwango, pour la quatrième fois consécutive. Alors c'était la première plénière aujourd'hui de la quatrième législature. La plénière inaugurale, le bureau provisoire a été mis en place. Christophe Mbosso revient comme doyen d'âge avec les deux Benjamin du Parlement. On a Serge Bahati, voilà, et Agé Matembo, comme je l'ai dit, qui sont les moins âgés. Quelle lecture on peut faire de cette nouvelle législature?
Merci beaucoup, Madame le journaliste, pour cette opportunité que vous nous offrez d'intervenir une fois de plus sur cette radio, et la radio qui informe correctement le peuple congolais. Et donc, nous disons de cette législature que nous sommes sur le schéma démocratique, parce que vous avez suivi que nous sortons des élections et pas plus tard que le 20, il y a eu investiture du président de la République et c'est aujourd'hui, c'est le tour de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que le tableau est déjà bien peint pour que les nouvelles institutions puissent rencontrer les préoccupations de la base. Alors, parlons maintenant de défi par rapport à cette quatrième législature de la Troisième République. Je dois d'emblée vous dire que le secrétaire général a rappelé à l'intention du public l'émission d'un parlementaire. Et donc, l'Assemblée nationale a deux missions essentielles, pour le répéter. Vous savez que nous devons légiférer, mais aussi nous devons contrôler. Les lois, comme j'ai toujours eu à le dire dans ce pays, nous n'en souffrons pas tellement. Le pays dispose énormément de lois et de textes de lois. Et également, le vrai problème qui se pose dans notre pays, c'est le niveau d'application des textes de loi. La deuxième mission, donc, est celle de contrôler. Vous allez vous en convaincre, Madame la journaliste, avec moi, que c'est s'il y a une plus grande faiblesse qu'on enregistre dans le Parlement congolais, c'est le contrôle. Le contrôle qui devait, en principe, être les baromètres de la bonne gouvernance pour les institutions de la République. Dans mon pays, je n'ai pas foi aux yeux de le dire, que le contrôle n'est pas correctement exécuté ou à la hauteur des attentes de la population. Et maintenant, comme nous sommes au début d'une nouvelle législature, nous osons croire que le président de la République, après avoir fait des promesses, vous avez suivi également que le 20 décembre, il a dit, il a promis qu'il va changer la façon de faire, qu'il va corriger les erreurs du passé. Et parmi ces erreurs, c'est le programme du gouvernement doit faire l'objet, en principe, de beaucoup de projets de loi qui doivent partir du gouvernement. Ce que le gouvernement qu'on va mettre en place, comme je l'ai déjà eu à le dire, ce doit être un gouvernement des hommes compétents et pas de souffleurs, et pas de personnes qui vont toujours pour raconter des choses au chef de l'État. Il a des défis énormes, parce que ces défis, vous le connaissez tous, et le président a eu à les rappeler. Et parmi le premier défi, c'est le défi sécuritaire. Le deuxième défi, le défi, les besoins sociaux de base de la population. Et les autres défis peuvent découler de ce qui existe déjà. Et le Parlement, en principe, devait s'asseoir pour regarder la manière dont le programme que le gouvernement va mettre en place va être exécuté. Les projets de loi qui viendront du gouvernement. Parce qu'en principe, c'est le gouvernement qui doit vite élaborer beaucoup de projets en fonction des promesses faites par le président de la République. Mais il n'est pas exclu également que le parlementaire fasse des propositions de loi en fonction du désidérata de la population. Mais tout ça, il faudra nuancer. Et le plus important, c'est l'impulsion qui doit être donnée par le bureau. Parce que le Parlement ne peut pas dire que non, nous constituons la majorité, et quand un membre du gouvernement de la majorité commet des bêtises, comme nous l'avons vu par le passé, il n'a pas bien géré, il a détourné, il n'a pas appliqué les lois, il a conclu des marchés de gré à gré, alors qu'il devait suivre la procédure pour le marché, non. Nous, la majorité, nous ne pouvons pas démettre un ministre parce qu'il est de la majorité.
Justement, monsieur.
Voilà donc, selon ce genre de problème, je vais terminer, madame, je vais citer. Il faudra qu'on ait un parlement au service de la République. Un parlement qui doit aider le président de la République à répondre aux promesses que celui-ci a faites à la population. Si c'est un parlement qui va pour protéger, parce que nous sommes la majorité comme nous l'avons vu, un parlement qui ne va pas contrôler, en ce moment-là, nous risquons de faire du rond-point.
Alors, vous avez parlé du contrôle parlementaire, des lois qui doivent être votées. Alors, on va revenir sur le contrôle parlementaire. Vous avez reconnu vous-même que c'est trop faible, les travaux parlementaires étaient trop faibles de ce côté-là. Pensez-vous qu'avec un parlement aujourd'hui constitué ou composé à 80% des membres de la majorité présidentielle, ce contrôle se fera?
Ça dépend de l'impulsion qu'on va donner. Vous savez que le président de la République, lors de son premier quinquennat, il a eu d'abord comme élément moteur dans sa gouvernance, il a dit qu'il devait combattre la corruption. Quel devait être le rôle du Parlement en ce moment-là? Parce que le président a énoncé que je veux lutter contre les antivaleurs. Mais le Parlement devait produire des lois anticorruption. Madame, je crois que vous n'allez pas me contredire que de ce point de vue-là, les intentions ont été manifestes. Nous avons fait des propositions de loi anticorruption. Est-ce que ces propositions de loi ont-elles été votées? C'est la manière, façon exactement de mettre en exergue, de mettre en application la volonté du chef de l'État qui voulait lutter contre les antivaleurs. C'est de produire des lois. Parce que quand vous regardez aujourd'hui le code pénal que nous avons dans notre pays qui date de 1940, il est dépassé par rapport à certains événements, par rapport aux lois internationales telles que la loi sur la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la corruption, le protocole de la SADC, tout comme la Convention de l'Union africaine. Qu'est-ce que le Parlement a fait pour accompagner le président de la République dans le cadre de la lutte contre la corruption? Ce ne sont pas les propositions de loi qui ont manqué, mais elles n'ont pas été votées. Et nous avons terminé la législature. En ce moment-là, pouvons-nous conclure effectivement que nous avons accompagné le président de la République pour améliorer la gouvernance de la République? Et donc, il ne faut pas ce genre de Parlement qui devient une caisse de résonance. Il faut maintenant qu'on ait un Parlement qui veut que les réponses aux préoccupations de la population soient effectives. Parce que si on veut, par exemple, au niveau des 145 territoires, que l'argent de la République a été déboursé, il faut qu'on regarde si les lois sont correctement appliquées. Il faut que les contrôles soient effectifs. C'est de cette manière-là, parce que j'ai toujours répété que chaque fois qu'on contrôle, on améliore la gouvernance.
Le contrôle, c'est pas seulement pour démettre le ministre, c'est pas seulement pour sanctionner, c'est pour améliorer la gouvernance. Et donc, si nous avons un Parlement qui respecte les deux missions principales, voter les lois, contrôler l'exécutif, le président de la République répondra facilement aux promesses qu'il a faites et que notre pays pourra avancer.
Trésor Tshikambi Muyeye, député national élu de Dilolo dans la province du Lualaba. Vous êtes ancien directeur de cabinet du gouverneur du Lualaba et ancien ministre du budget de la même province. Votre lecture à vous de cette nouvelle législature, vous arrivez à l'Assemblée nationale comme député national. Que pensez-vous ou quels sont les défis selon vous, les défis qui vous attendent à l'Assemblée nationale?
Merci beaucoup, madame, pour l'opportunité que vous m'accordez d'intervenir sur l'appel. Pour remercier l'autre.
On a un souci avec votre ligne téléphonique. Essayez
de bouger. Je vais aller tout droit au but. J'ai un problème de réseau.
Ça s'est amélioré. Allez-y, on vous écoute.
Oui, donc je disais que j'aimerais d'abord une fois féliciter mon aîné qui vient d'intervenir avant moi. Il a ramassé plusieurs questions qui relèvent des défis à relever dans cette législature. Il a rappelé les fonctions d'un député national ou le rôle de l'Assemblée nationale en ce qui concerne la marche du pays. J'aimerais aborder la question dans le même sens tout en apportant quelques petits détails. C'est notamment en ce qui concerne des réformes. Ce mandat, ça sera un mandat pour moi, les grands défis à relever. Nous devons engager des réformes courageuses dans tous les secteurs. Parce que le loi, effectivement, comme mon aîné l'a dit, nous les avons, mais l'applicabilité pose problème parce que ces lois sont devenues obsolètes. Et donc, il est important que nous puissions initier de réformes courageuses afin d'inciter, n'est-ce pas, le décollage de secteurs vitaux de notre économie, par exemple. Je peux aller dans le domaine de l'entrepreneuriat de jeunes parce que
votre ligne téléphonique, votre ligne téléphonique n'est pas bonne, monsieur.
J'étais en train de dire que le réforme, les défis devraient aller dans le sens de réforme de nos lois qui sont devenues obsolètes. Et je prenais l'exemple de l'entrepreneuriat de jeunes qui doit être soutenu, parce que le chef de l'État a un programme ambitieux qui doit être soutenu par des réformes courageuses. Aujourd'hui, la pression fiscale sur les petites et moyennes entreprises est très très forte et les jeunes n'arrivent pas à entreprendre. Comment voulons-nous créer de l'emploi si la fiscalité des petites et moyennes entreprises est très forte? Donc je pense que le défi serait d'aider à ce que des réformes soient faites afin que notre économie puisse être soutenue par le secteur productif, notamment l'entrepreneuriat de jeunes. En dehors de ça, je suis d'avis que l'Assemblée nationale doit être à mesure de jouer son rôle, celui du contrôle parlementaire. Il ne faudrait plus que la complaisance puisse nous caractériser, parce que nous avons quand même constaté dans le passé qu'il y a eu beaucoup de complaisance en ce qui concerne le contrôle parlementaire. Il est aussi évident que le secteur de l'initiation, ou soit des initiatives du gouvernement, telles que l'a dit mon aîné, en ce qui concerne les propositions de loi, il faudrait qu'il y ait des techniciens avérés au niveau du gouvernement. Et je pense que ces mandats doivent être un mandat des techniciens capables d'apporter un plus dans l'action du gouvernement. Il est vrai que tout ne pourra pas être fait d'un coup, mais je pense que la population attend de cette Assemblée nationale un renouveau, et je pense même que sa composition le démontre. Il y a eu 71% de nouveaux élus. C'est la preuve que la population a besoin du changement. Et ce changement doit aller dans le sens d'apporter du renouveau dans des réformes énormes. Et aujourd'hui, moi, je suis d'avis que l'Assemblée nationale doit accompagner le gouvernement dans le vote de propositions de loi qui viendraient du gouvernement afin de lui doter aussi le moyen de sa politique. Au-delà de tout ça, il y a la question de loi répressive, parce que mon aîné a soulevé la question de l'impunité. Nous avons constaté qu'il y a eu beaucoup d'impunité et il y a beaucoup de précédents. On n'arrive pas à réprimander les détourneurs de fonds, les inciviques fiscales, et toutes ces questions doivent être soutenues par l'action du Parlement afin que notre justice puisse faire aussi son travail et aider le président de la République à donner à la population le bien-être dont elle attend depuis tant d'années.
Alors, monsieur Chikambi, il y a un auditeur qui vous pose la question, Jado Igilima, qui nous écrit depuis Bukavu. Il dit: comment une Assemblée nationale monocolore, presque sans opposition, va-t-elle aider le président de la République à corriger les erreurs du passé? À mon avis, cette législature sera la moins efficace dans le contrôle parlementaire.
La question ici, ce n'est pas la question du monocolore. Je pense qu'il y a la liberté d'esprit et la liberté d'expression. Nous sommes en démocratie. Ce n'est pas qu'il y aura une pensée unique qui va dominer l'Assemblée nationale. Il y a plusieurs éminents professeurs, il y a plusieurs jeunes qui ont un esprit innovateur, capable de mettre des nouvelles idées. Je suis sûr que le débat sera au rendez-vous, et ce débat va permettre à ce que le faux s'efface de la manière la plus réglo qui est possible. C'est une majorité partout dans le monde. Les assemblées nationales sont constituées d'une majorité. La majorité ne veut pas dire l'absence du débat. Je pense que mon frère devrait prendre son mal en patience, et je suis persuadé que les débats pourra amener à ce que le faux se fasse d'une manière démocratique, concertée et consensuelle.
Bob Kabamba, analyste, plutôt professeur à l'Université de Liège en Belgique, et politologue, professeur. Alors, on a une nouvelle Assemblée nationale, 400 sur les 477 députés nationaux élus provisoirement, 337 sont des nouveaux élus et 140 membres sont réélus. Votre lecture de cette nouvelle configuration?
Merci madame, je présente d'abord mes voeux à tous les auditeurs et auditrices des Radio Capi pour la nouvelle année, et vous aussi madame Gelly.
Merci.
Et donc en termes de compréhension par rapport à la nouvelle convocation de cette nouvelle législature, donc il faut se remettre dans le contexte. Donc ici nous sommes clairement dans une situation où, comme confirmé par la Constitution, après la publication des résultats provisoires, il va de soi que le secrétaire général de l'Assemblée nationale convoque la liste des élus provisoires pour qu'ils viennent à l'Assemblée pour constituer ce qu'on va appeler l'installation de la nouvelle législature. Cette nouvelle législature est convoquée par le secrétaire général, et qui va constater qui est le plus âgé des parlementaires proclamé élu par la CENI, et puis qui doit aussi constater les deux plus jeunes qui ont été proclamés par la CENI. En fonction de ça, on constitue ce qu'on appelle le bureau d'âge, qui est constitué de trois personnes, comme on vient de le dire, c'est un, le plus âgé, et deux, le moins âgé. Si j'ai bien lu ce que vous avez mis dans votre communiqué, ça veut dire qu'il s'agit de Mbosso et de Honorable Bahati et de Honorable Âgé. Donc clairement, c'est la première fois, il faut d'abord souligner que c'est la première fois dans la législature de la RDC qu'un ancien président de l'Assemblée provinciale,
Assemblée nationale,
oui, devient président du bureau d'âge en fonction de son âge. En fait, c'est la première fois que dans l'histoire de la RDC que ça arrive. Ce qui augure dans ce qu'on peut entendre de l'entendement, ça veut dire qu'il y a une certaine continuité de ce que l'on a connu avant par rapport à la suite de ce qui va arriver. Ça, c'est la décision, en fait, liée au constat qui est fait par le secrétaire général de l'Assemblée. Et par rapport à ça, il faut bien se rendre compte que par rapport à l'article de la Constitution qui est très clair à ce sujet, c'est que cette Assemblée a, de manière claire, compétences, qui sont des compétences limitées. Les compétences limitées sont d'abord, etc., par rapport à des choses qui sont réglementées par la Constitution, notamment l'installation d'abord du bureau provisoire, ensuite la validation des pouvoirs, mm-hmm. Ensuite l'élection et l'installation du bureau définitif et l'adoption et des éléments d'ordre intérieur. C'est les quatre points qui sont à l'ordre du jour de cette assemblée. Mm-hmm. Ce qui veut dire que par rapport à l'installation de ces différents points du jour, il y a le point 3 qui parle de l'élection et l'installation du bureau définitif. Ce qui veut dire que cette point 3 du bureau provisoire de l'Assemblée nationale dépend de la proclamation des résultats définitifs des députés nationaux. Donc la Cour constitutionnelle a le devoir d'abord, avant que qu'on proclame le bureau définitif, il est impératif que la Cour constitutionnelle arrive à proclamer d'abord la liste définitive des députés nationaux. Et donc ça nous augure, quand on regarde, on met en lien avec ce que la Cour constitutionnelle a publié, qu'il y a plus ou moins 1700 dossiers qui sont en recours contre les résultats des députés nationaux. Donc je ne sais pas si dans les deux mois qui vont suivre, qu'on va arriver à avoir une liste définitive des députés nationaux et qui pourront élire de manière définitive le bureau de l'Assemblée provinciale, le bureau de l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est un premier point. Donc ça, c'est un élément important à prendre en considération. L'autre point à prendre en considération, c'est la validation des pouvoirs. On sait très bien que la façon dont les élections sont passées, qu'il va y avoir, parce que la CENI elle-même a publié plusieurs listes, notamment des listes publiées, et puis il y a des listes corrigées. On ne sait plus laquelle liste qui est définitive de l'Assemblée de la CENI qui sera prise en considération par le bureau, les services de l'Assemblée nationale.
Mais la CENI a déposé la liste définitive.
On va avoir des problèmes.
Je pense que la CENI a déposé la liste définitive à l'Assemblée nationale.
Oui, mais elle a déposé une liste qui a déjà été corrigée deux fois, si j'ai bien suivi les communiqués de la CENI. Alors, je ne sais pas quelle liste qui va être prise en considération par rapport à la convocation des députés. Mais bon, ça c'est, on va dire, c'est aléatoire. L'Assemblée va gérer par rapport à cette question. Mais la question va être fondamentale, c'est qu'on ne peut pas épuiser l'ordre du jour de l'Assemblée, la convocation de cette Assemblée, si on n'a pas la décision définitive de la Cour constitutionnelle qui valide la liste officielle des députés nationaux qui sont habilités à pouvoir siéger à l'Assemblée nationale. Ça, ce sera important à pouvoir suivre. Et en fonction de ça, on aura des variations, certainement, en termes d'équilibre de force entre la majorité et l'opposition.
On va prendre quelques réactions des internautes qui nous suivent sur Facebook. Vous êtes très nombreux à nous envoyer des messages. Chabanissa, Roger Benzema, merci beaucoup. Vous nous suivez depuis Fungurume. Votre souhait que nos élus changent notre pays, voilà, de la pauvreté à la richesse pour l'intérêt du peuple. David Doué dit depuis Kinshasa, nous avons fait notre part en votant utile comme ils nous ont demandé pendant la campagne électorale de voter utile. C'est à eux de nous prouver maintenant que nous n'avons pas commis d'erreur en leur donnant une seconde chance. Voilà. Merci à Patsion Chipeng depuis Likasi dans le Haut-Kiatanga. Josué Bibentio, voilà, depuis Bukavu. Alors, la durée du bureau provisoire va prendre combien de temps? Je pense que le professeur Bob Kabamba vient de l'expliquer tout à l'heure. Ça sera après les recours, hein, les recours qui sont en train d'être examinés, traités à la Cour constitutionnelle, qu'on aura la liste définitive. Professeur, vous allez me corriger, hein, qu'on aura la liste définitive des députés nationaux élus, que le bureau provisoire pourra procéder à l'élection ou à organiser l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Je suis dans le bon, professeur, très brièvement.
Oui, vous êtes dans le bon. Ça veut dire qu'on doit attendre absolument que la Cour constitutionnelle termine les contentieux pour pouvoir arriver à la liste définitive des députés nationaux. Et en fonction de ça, on pourra procéder à l'élection, comme dit la Constitution, du bureau de l'Assemblée nationale. Tant que la Cour constitutionnelle n'aura pas réussi à terminer le contentieux, donc on ne pourra pas avoir un bureau de l'Assemblée nationale et on ne pourra pas avoir l'institution qui va suivre tout le processus qui doit suivre après, ça veut dire gouvernement, etc. Donc vous avez raison de bien souligner que la convocation actuelle est conditionné par, de manière claire, sans ambiguïté, par la décision de la Cour constitutionnelle d'arriver à avoir la liste définitive des députés nationaux.
On va ouvrir le standard pour prendre ces auditeurs qui nous appellent. On va se rendre à Kisangani, dans la province de la Tchopo, pour écouter cet auditeur.
C'est Blaise Saïd, j'appelle à partir de Kisangani, dans la commune de la Makiso, dans la province de la Tchopo. Je félicite d'abord les nouveaux élus et les réélus du peuple. Alors, j'aimerais savoir, au regard de la situation d'aujourd'hui, des quatre législatures dans notre pays, aujourd'hui, nous venons de remarquer que nos parmi les nouveaux élus et les réélus du peuple, on a constaté vraiment l'absence de certains élus du peuple. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce qui explique l'absence de certains élus aujourd'hui, le jour où ils devraient valider le mandat. Donc, à mon avis, je vois que non, le Parlement, cette fois-ci, sans l'opposition, je pense bien que non, on n'aura pas des idées contradictoires au Parlement, où on aura uniquement un Parlement à un sens unique.
Monsieur Pasiza Pamba, comment vous réagissez à la préoccupation de cet auditeur, Blaise Saïdi?
Oui, monsieur Blaise Saïdi, que nous saluons en passant, peut peut-être avoir raison, mais je m'en veux tout de suite lui dire que le problème des élections ou des élus ne dépend pas de cette assemblée, parce que nous-mêmes les élus, nous provenons des élections organisées par la CENI. Donc à la question de savoir ceux qui sont venus, tout comme ceux qui ne sont pas venus, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, cette question devrait trouver des réponses au niveau de la CENI, parce que tous nous venons d'une compétition. par rapport au débat qui doit avoir lieu à l'Assemblée nationale. Moi, je tiens à préciser, cette notion de majorité, tout comme de l'opposition, elle existe partout dans le monde. Mais nous qui sommes de la majorité, c'est le cas maintenant où nous devons être beaucoup plus précis et nous mettre devant nos responsabilités. C'est un problème de responsabilité. Quand on est élu et qu'on a un programme conçu par le président de la République pour répondre aux préoccupations de la population, je pense que le Parlement ne peut pas, qu'il soit monocolore ou je ne sais pas quoi, le Parlement doit assumer ses responsabilités. Il doit l'assumer dans les deux missions lui confiées. Et d'ailleurs, la responsabilité devient beaucoup plus grande pour la majorité, pour la simple raison que, à l'issue de la législature, la population va poser la question à cette majorité. Vous aviez la Banque centrale, vous aviez l'administration, vous aviez les forces armées, vous aviez tout entre vos mains. Pourquoi n'avez-vous pas répondu aux promesses faites par le président de la République et par vous-même lors de la campagne? Cela doit permettre en principe à cette majorité de s'auto-sanctionner, de s'auto-évaluer pour pouvoir améliorer la gouvernance. Donc à ce sujet-là, moi je pense que si nous avons un bureau responsable, et qui émane de la population et qui doit répondre aux préoccupations de la population, on doit respecter les missions essentielles et qui sont celles de voter de lois, comme l'a dit l'honorable mon collègue qui est intervenu tout à l'heure, de lois et de réformes qui doivent aussi être menées en fonction des besoins de la population. Donc, pour moi, qu'on dise que l'opposition ou la majorité doit l'être en fonction des besoins de la population et non en fonction des besoins du pouvoir. Parce alors, que si c'est pour les besoins du pouvoir, en ce moment-là, ça ne sert à rien qu'on soit au Parlement.
Monsieur Patrice Apamba, il y a Madame Sofina, voilà, qui nous écrit depuis Kinshasa, qui voudrait savoir qu'est-ce qui pourrait arriver aux députés qui ne se sont pas présentés aujourd'hui pour la validation de leur mandat.
Bien, je crois que la validation de mandat n'a pas encore commencé. Aujourd'hui, c'était une séance tout simplement inaugurale et que vous avez suivi le président de l'Assemblée du bureau provisoire a donné même le chronogramme de fait. On va mettre sur pied des commissions, 26 commissions provinciales et auprès desquelles on déposera le dossier province par province, c'est-à-dire selon l'organisation qu'on mettra en place. Par exemple, la province du Kwango pourra recevoir le document, par exemple, de la province de Lomami, la province du Congo central. Donc, on remettra les dossiers qui seront examinés. Donc, ceux qui ne se sont pas présentés aujourd'hui ne peuvent pas être inquiets. On les attend qu'ils viennent parce que le processus de validation n'a pas encore démarré.
On va rester à Kinshasa pour prendre cet autre auditeur qui nous appelle.
Japhet Eunga, depuis la ville de Kinshasa. La plénière inaugurale de l'actuelle Assemblée nationale est non-événement à mon avis, car les députés nationaux qui siègent dans cette Assemblée n'ont pas la confiance totale de la population. Preuve en est que, depuis la publication des résultats, il y avait eu plusieurs contestations dans la classe politique congolaise et d'autres Congolais ne considèrent pas cette Assemblée qui est illégitime et ils sont venus ici par des conditions que nous connaissons. La deuxième des choses, cette Assemblée sera une Assemblée la plus médiocre et faible car les députés ne vont pas faire les contrôles parlementaires. Ils seront là que pour applaudir les gouvernements.
Japhet Eunga depuis Kinshasa. Bref, commentaire, Trésor Tshikambi.
Merci beaucoup, je salue notre auditeur et c'est son avis et que je ne partage pas parce que après une compétition il y a toujours des contestations, et ces contestations sont tout à fait légitimes, et la Constitution a réglé le problème. Ça veut dire, si vous contestez le résultat, vous devez vous adresser à la Cour constitutionnelle par un recours et présenter vos moyens de défense pour prouver réellement que vous avez gagné ces élections-là. Et donc, si cela n'a pas été fait, une déclaration simple de contestation ne vaut pas. Et je fais conseil à notre ami de continuer un combat tout à fait objectif. En ce qui concerne la conclusion qu'il vient de tirer, que cette assemblée sera une assemblée faible, moi je pense qu'on ne peut pas, aujourd'hui juger de l'efficacité de la nouvelle assemblée nationale tant qu'elle n'a pas encore commencé à fonctionner, à produire les lois, à contrôler les gouvernements. Je pense que c'est notre manière de faire les choses qui pourra au finish donner le droit à qui que ce soit, à la population, de nous juger et de nous donner, n'est-ce pas, la cote qui sera la nôtre. Je suis persuadé que la nouvelle Assemblée nationale a tiré les leçons du passé. Elle sait très bien quelles sont les attentes de la population et nous allons travailler dans le sens de satisfaire les déshydratats de la population en mettant la pression sur le gouvernement par rapport à l'action qui nous sera présentée ou le programme du gouvernement qui nous sera présenté. Nous ferons en sorte que le gouvernement agisse dans le sens du bien-être de la population. Il n'y aura ni majorité, ni opposition, mais il y aura, n'est-ce pas, le bien-être de la population que nous poursuivons tous. La majorité poursuit le bien-être de la population, l'opposition critique pour que la majorité puisse agir dans le sens du bien-être de la population. Je crois que tout est pour le bien de la population et notre frère doit comprendre cela.
Jeanne Mombéré, on lui dit ceci, je ne vois rien de nouveau qui nous viendra de cette assemblée, si ce n'est que de motions alimentaires et la protection des ministres de leur plateforme. Dernier auditeur en ligne qui nous appelle depuis Lissala dans la province de la Mongala. On va l'écouter.
Jonas Mouli à Lissala dans la province de la Mongala. Je commence tout d'abord par saluer la bravoure de toutes les femmes qui se sont battus pour âme, pour faire partie de cette nouvelle Assemblée nationale qui commence en ce jour. À mon humble avis, nous avons tous vu comment le président de la République a présenté son premier mandat. Il a dit n'avoir pas bien travaillé parce qu'il a trouvé tous les indicateurs du pays au rouge. Et cela s'est justifié par le fait que certains projets qu'il avait initiés n'ont pas été réalisés. Mais du coup, aujourd'hui, la nouvelle Assemblée nationale qui a commencé des activités aujourd'hui a vu des nouvelles figures qui apparaissent aujourd'hui dans l'Assemblée nationale. Est une preuve pour la population qui a montré que les anciens députés n'ont pas pu travailler. Mais la législature qui commence aujourd'hui est remplie des attaques. Les attaques de la population sont multicatégorielles. Les députés qui sont aujourd'hui porteurs d'un mandat de la population doivent travailler au bénéfice de cette population. La population qui élit les députés a besoin de voir quelque chose au retour.
Alors, professeur Bob Kiabamba, juste un mot par rapport au point de vue de Mboli, qui nous écrit depuis Lissala dans la Mongala. Mais avant cela, je vais prendre la réaction de Nour, qui nous écrit depuis quelle province. Il n'a pas mis la province. Il dit ceci, une assemblée nationale qui a mal commencé dès le premier jour. Nous avons vu les députés dormir en pleine séance plénière. Ils sont là juste pour leur ventre et régler les comptes à l'opposition à l'avantage de l'Union sacrée de la nation. Alors, professeur, commentaire par rapport à l'auditeur qui nous a appelé de Lissala.
Oui, merci beaucoup, parce qu'il faut bien se rendre compte, on parle des chiffres, d'accord? C'est que quand on regarde la composition de la liste qui a été transmise par la CENI à l'Assemblée nationale et à la Cour constitutionnelle, on se rend bien compte que l'opposition ne compte pas. il faut bien se mettre d'accord sur ce point-là. Parce que quand on regarde la loi électorale, quand on regarde la Constitution, quand on regarde les règlements passés de toutes les assemblées nationales, on se rend bien compte qu'avec le nombre d'élus que l'opposition a obtenu aujourd'hui, qui a été publié par la CENI, donc l'opposition ne va même pas exister. J'insiste bien que l'opposition ne va même pas exister. Ce qui veut dire qu'elle ne pourra même pas avoir droit à un groupe parlementaire, qu'elle ne pourra même pas avoir droit à avoir des mandats dans les différentes commissions, qu'elle ne pourra même pas avoir droit à pouvoir même être représentée au niveau du bureau de l'Assemblée. Ce qui veut dire, en gros, que nous serons dans ce qu'on peut appeler une chambre monocolore. Une chambre monocolore, c'est quand on dit une chambre monocolore dans tout ce qu'on peut imaginer comme processus démocratique, ça veut dire que nous sommes dans une chambre où on a une chambre d'entérinement et pas une chambre qui va arriver à contrôler. Un Parlement a trois missions. A les missions d'abord législatives, ça veut dire produire des lois. A une mission de contrôle, ça veut dire contrôle, c'est ce que doit faire l'exécutif. Et puis a une mission de représentation. Donc, sur ces trois missions, donc législatives ne pourront pas faire des lois si l'exécutif ne veut pas que ces lois soient faites du fait qu'on a une chambre monocolore. Contrôle, il n'y aura pas de contrôle puisque c'est le même système, ça veut dire que voulez-vous contrôler quelqu'un qui est de votre bord, donc ça n'existe pas. Représentation, problématique puisque nous savons très bien que la CENI a publié un taux de participation de 40% par rapport à 44 millions d'électeurs, ce qui veut dire qu'en termes de représentation de la population, cette représentation, elle n'est pas effective. Donc nous allons avoir une problématique par rapport à cette question-là. Donc en conclusion, par rapport à la remarque de l'auditeur, donc nous aurons ce qu'on va appeler une chambre monocolore qui va être dictée par l'exécutif, puisque l'exécutif donne des moyens au législatif, et le législatif va suivre ce que l'exécutif lui dit. Donc nous allons dans ce qu'on appelle la concentration des pouvoirs au niveau de l'exécutif, avec un législatif qui est monocolore, un législatif qui est accolé à l'exécutif, qui est la présidence. Donc nous aurons, on n'ose pas encore le dire, mais nous allons vers ce qu'on va appeler, dans ce que nous enseignons, nous tous, dans les facultés de sciences politiques et facultés de droit, nous allons, nous tous, dans ce qu'on appelle un système autocratique. Alors, c'est qu'on est en train d'aller avec ce que nous venons d'avoir comme résultat des élections législatives, présidentielles et provinciales.
Alors, en conclusion, professeur Bobka Bamba, vous pensez qu'avec cette nouvelle Assemblée nationale, il ne faut rien attendre de nouveau. Ce sera la continuité de l'Assemblée précédente.
Nous aurons ce qu'on appelle la consolidation que nous enseignons nous tous en sciences politiques d'un pouvoir autocratique. Ça veut dire que l'exécutif dirige le législatif, l'exécutif dirige le judiciaire, et c'est dans ce système-là que nous sommes en train d'aller et nous serons dans un système autocratique. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de changement de ce que nous avons aujourd'hui par rapport à ce que nous aurons demain. Ça sera la même chose, encore beaucoup plus autocratique que ce que nous avions avant, puisque l'opposition n'existe pratiquement plus dans le système politique congolais aujourd'hui.
Merci, professeur. Monsieur Passis Apamba, réaction.
Merci beaucoup. Ma petite réaction, c'est en rapport avec le nombre d'opposants. Moi, je ne crois pas que c'est le nombre qui fait l'affaire. Tout ce que nous pouvons espérer, c'est la qualité de l'opposition. En ce qui concerne la répartition de tâches, je crois qu'il existe une loi dans ce pays qui veut que l'on puisse nommer les responsables de l'opposition. Et en ce qui concerne la répartition des tâches, au niveau, par exemple, du bureau, il est prévu dans les textes, dans le règlement, des postes qui sont réservés à l'opposition. Mais pas le faire en ce moment-là, nous risquons exactement de conclure à ce que venait de dire le professeur Bob tout à l'heure, que nous retrouvons devant un régime autocratique. Mais je suis convaincu que tout dépend des hommes. Et je crois que les hommes qui sont en train de nous suivre aujourd'hui comprennent effectivement qu'à l'issue des élections, on n'a pas un grand nombre d'opposants au niveau de cette Assemblée et que la place de l'opposition doit quand même être la mieux cotée pour permettre à cette opposition de jouer un rôle parce que nous sommes dans un régime démocratique et que l'opposition a un mot à dire.
Merci.
Pour le reste, je conclue en disant que la population qui venait d'envoyer le député à l'Assemblée nationale doit être aussi la gardienne de ce député. Il ne faut pas laisser les députés, parce que vous les avez élus, et vous les laissez aller dans tous les sens. Au contraire, il faut le rendre responsable par un contrôle citoyen.
Monsieur Trésor Tshikambi Muyeye, votre conclusion.
Oui, merci madame. Ma conclusion est que je pense qu'il y aura beaucoup de surprises avec cette nouvelle assemblée. Je pense même qu'elle pourrait contredire certaines analyses scientifiques, parce que comme mon collègue aîné vient de le dire, c'est une question de volonté et d'homme. L'Assemblée nationale représente l'expression populaire. Ça veut dire la population congolaise a fait confiance, n'est-ce pas, à ces députés qui ont été envoyés à l'Assemblée nationale. Et si cela constitue la majorité, et donc c'est ça la volonté populaire. Mais c'est une grande responsabilité que nous allons assumer, et la population nous attendra au tournant par rapport, n'est-ce pas, à ce qu'elle attend de cette Assemblée nationale, à ce qu'elle attend de ce programme du président de la République que nous trouvons ambitieux, qui a fait élire le président ainsi que sa majorité. Il est clair que l'opposition est importante dans un pays pour essayer d'équilibrer le débat, mais je ne crois pas que les saluts d'un peuple provient d'une opposition farouche. Je pense que réfléchir de cette manière-là, c'est de mettre des cailloux dans la machine de développement de tout un pays.
Merci, Trésor. Merci, Monsieur Tshikambi. On n'a plus beaucoup de temps. Nous sommes à la fin de notre magazine. La réalisation me signale qu'il faudrait que je clôture. Voilà. Merci. On va clôturer cette émission, comme je le disais. Merci à Alain Goy qui était à la mise en onde. Guy Maté qui a réalisé cette émission, Clément Tumanga, Jonathan Folani, Hervé Voka étaient derrière la caméra, présentation et coordination, Kelly Routé, chers internautes, vous avez été très très nombreux à nous écrire depuis Likasi, depuis Kolwezi, depuis Lubumbashi, depuis Kananga, depuis Durba, depuis l'Afrique du Sud, depuis l'Angola, merci beaucoup. On se retrouve demain, même heure, pour un nouveau débat avec des nouveaux invités. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.